VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Chérubin Dorcil et Morgane Guerriec, bonsoir et bienvenue à l'édition de ce mercredi 7 octobre 2015. À la une ce soir.
Violence des salafistes armés dans le nord du Nigeria. Des attaques de Boko Haram font au moins 15 morts ce mercredi.
Le torchon brûle entre Bujumbura et Kigali. Un diplomate rwandais expulsé.
Désiré Nyaruhirira avait déjà évacué sa famille vers Kigali depuis une semaine à cause de plusieurs menaces de mort reçues.
En Guinée, inquiétude de l'opposition à 4 jours du premier tour de la présidentielle.
Nous sommes vraiment angoissés parce que non seulement certains n'ont pas eu encore les cartes d'électeurs, vous avez une seule personne enrôlée plus de 20 à 30 fois.
Béatrice Dobige, directrice de campagne de Sidya Touré, Anne-Zéré Coré.
Crise des migrants, la lutte contre les passeurs en mer entre dans une phase plus offensive.
Moscou intensifie ses frappes en Syrie. Bachar al-Assad en profite pour lancer une vaste offensive terrestre contre les rebelles.
Dans moins de 10 minutes, l'économie et les sports, mais d'abord le journal.
Au moins 15 personnes ont été tuées aujourd'hui dans 3 attentats suicides commis à Damaturu, capitale de l'état de Yobe, dans le nord-est du Nigeria. Une information confirmée par l'Agence nationale de gestion des urgences, la NEMA. Les précisions de Jacques Aristide.
Les jours se passent et se ressemblent au Nigeria. Ce mercredi, 2 assaillants se sont fait exploser devant un magasin et une mosquée dans une zone résidentielle et un autre dans le quartier de Fulani, dans les faubourgs de Damaturu. En l'absence de revendications, les soupçons des résidents se portaient sur Boko Haram. D'après l'AFP, les islamistes nigérians affiliés au groupe État islamique ont déjà frappé à plusieurs reprises à Damaturu et dans l'état voisin de Borno. L'armée nigériane a par ailleurs fait état aujourd'hui d'une offensive de Boko Haram repoussée à Goniri, à 60 km au sud-est de Damaturu. Les troupes nigérianes annoncent régulièrement avoir infligé des pertes dans les rangs des insurgés, mais ces informations sont difficiles à vérifier et rarement confirmées de sources indépendantes. D'autant que Boko Haram continue à un rythme soutenu ses raids meurtriers contre des villages du nord-est du Nigeria, souvent pour se ravitailler et multiplie les attentats suicides, y compris dans les pays voisins, au Tchad, au Niger et au Cameroun.
Élection en République démocratique du Congo, la MONUSCO demande à Kinshasa de garantir une campagne électorale équitable, n'excluant personne, afin d'aboutir à des scrutins législatifs et présidentiels crédibles. Martin Kobler, chef de la mission de l'ONU en RDC, a dénoncé un nombre croissant de violations des droits de l'homme liées au processus électoral, particulièrement à l'encontre du droit de rassemblement pacifique.
Les relations entre le Burundi et le Rwanda se détériorent. Bujumbura a expulsé et Désiré Nyaruhirira, ministre conseiller auprès de l'ambassade du Rwanda dans la capitale burundaise. Une décision confirmée par un officiel rwandais ayant requis l'anonymat sans toutefois fournir d'explication. Éric Manirakiza.
Désiré Nyaruhirira détient également la nationalité burundaise. Selon des sources proches du diplomate, il avait déjà évacué sa famille vers Kigali depuis une semaine à cause de plusieurs menaces de mort reçues. En poste depuis 2003, il aurait mené ces derniers jours une vie presque intenable, l'obligeant à être à sa résidence à 16 heures plus tard pour sa sécurité. Un officiel au sein du gouvernement rwandais joint par VOA Afrique, mais qui a requis l'anonymat, a confirmé cette expulsion qu'il a qualifiée de provocation. Selon d'autres sources à Bujumbura contactées par VOA Afrique, le diplomate rwandais serait accusé d'espionnage et de soutien aux adversaires du troisième mandat du président burundais. Une autre décision prise ce mardi par le gouvernement du Burundi et qui témoigne de l'escalade de tensions avec Kigali, c'est l'expulsion en 48 heures des Rwandais établis dans le nord du Burundi à Kayanza. Le nombre n'est pas encore connu, mais ceux-ci exerçaient le commerce dans cette région depuis très longtemps, selon l'officier rwandais joint à Kigali.
génocide rwandais, Kigali a exprimé sa grande déception après le non-lieu accordé par la justice française au prêtre Wenceslas Munyeshiaka. Aucune poursuite introduite en France à l'encontre de personnes soupçonnées d'avoir participé au génocide n'a abouti à un résultat définitif, dénonce l'ambassade du Rwanda à Paris.
Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a dénoncé aujourd'hui la mort d'un casque bleu burundais de la mission de l'ONU en République centrafricaine, la MINUSCA, lors d'une embuscade mardi au nord de Bangui. Le gouvernement centrafricain envisage des mesures pour renforcer la sécurité à Bangui.
C'est le calme et on espère que la situation va perdurer. Et pour cela, le gouvernement a mis en place un certain nombre de mesures pour ramener la paix, le calme, notamment le couvre-feu qui est fixé à 18h, mais que nous allons alléger compte tenu donc de l'amélioration de la situation sécuritaire. Donc le couvre-feu va être ramené à 20h.
Le ministre centrafricain de la Sécurité et porte-parole du gouvernement, Dominique Saïd Paginji.
Liberté de la presse bafouée au Tchad. Reporters sans frontières dénonce vivement l'arrestation arbitraire du journaliste tchadien Stéphane Mbayrabé à N'Djamena. Il aurait été interpellé dans la nuit du 2 au 3 octobre par la police judiciaire sans mandat d'arrêt. L'organisation fait état de mauvais traitements infligés aux confrères en détention. Menotté et les yeux bandés, le journaliste a été tabassé par les hommes en civil afin qu'il révèle ses sources après la publication d'un article critiquant le président Idriss Déby Itno. Le journaliste qui a ensuite été libéré porte les stigmates des coups reçus selon RSF. Il attend d'être fixé sur la date de sa comparution en citation directe pour diffamation.
Lutte contre Al-Shabaab en Somalie. L'organisation islamiste promet d'accueillir avec des balles les soldats britanniques. Londres a annoncé le mois dernier le déploiement de 70 militaires en Somalie en soutien à l'AMISOM, la force de l'Union africaine qui combat le mouvement djihadiste affilié à Al-Qaïda. Le Premier ministre britannique David Cameron prévoit aussi d'envoyer 300 soldats au Soudan du Sud, intégrés à la mission de l'ONU sur place. La Minus.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Crise migratoire en Europe, l'opération navale Sophia de l'Union européenne a commencé aujourd'hui, jusqu'ici limitée à une surveillance à distance des réseaux de passeurs. Cette mission de lutte contre le trafic humain en mer passe désormais à une phase plus offensive. Les précisions de Dilly Dico.
Cette nouvelle opération navale dans le sud de la Méditerranée vise à intercepter les navires de passeurs et de trafiquants humains tentant de transporter les migrants et les réfugiés vers les côtes européennes. Baptisée Sophia, du nom d'une fillette née après le sauvetage d'une embarcation en perdition, cette opération permet aux navires des 22 pays impliqués d'arraisonner, fouiller et saisir les bateaux suspects. Auparavant, les opérations en mer de l'Union européenne se limitaient à des expéditions de recherche et de sauvetage, mais suite à la vague inédite de migrants venus cet été de Syrie, d'Irak et d'ailleurs, ainsi qu'aux milliers de pertes en vie humaine en mer, la décision a été prise de passer à une nouvelle phase dans la lutte contre les passeurs. Pour rappel, cette crise des migrants est la plus importante connue par l'Europe depuis la Seconde Guerre mondiale. Les chiffres actuels indiquent que plus de 130 000 migrants ont rejoint l'Europe cette année en partant de l'Afrique du Nord et 2700 d'entre eux se sont noyés lors de la périlleuse traversée.
Alors que l'aviation russe augmente ses frappes en Syrie, l'armée de Bachar al-Assad a lancé aujourd'hui une série d'attaques au sol visant à éradiquer la rébellion dans le nord de la province de Hama et dans le centre du pays. Selon une source militaire citée par l'AFP, c'est une opération terrestre. Elle a été rendue possible par l'intervention de Moscou dans la crise en soutien au gouvernement du président Assad. Washington persiste dans son rejet de l'implication russe en Syrie, que le Pentagone qualifie d'erreur stratégique. Les États-Unis ont assuré ce mercredi qu'ils ne coopéraient pas avec Moscou sur les frappes aériennes menées en Syrie.
Près de 5 mois après la prise de la ville de Ramadi, capitale de la province d'Al-Anbar dans l'ouest de l'Irak, les forces gouvernementales soutenues par la coalition internationale semblent prêtes à déloger les djihadistes du groupe État islamique. Je m'attends à une libération de la ville d'ici fin octobre, a dit à l'AFP Adhal Fardawi, membre du conseil provincial. L'opération qui a mobilisé 2000 hommes a permis à l'armée irakienne et ses alliés de reconquérir plusieurs localités proche de Ramadi.
Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a reporté sa visite prévue jeudi en Allemagne. Les observateurs y voient un lien direct avec le climat tendu qui prévaut depuis des semaines entre Israël et les Palestiniens. Aujourd'hui, la presse fait état de la troisième attaque au couteau en 5 jours visant des Juifs. Un Palestinien a été abattu dans le centre du pays après avoir attaqué un soldat, selon les autorités. De Ramallah à Jérusalem, les affrontements se multiplient dans les deux camps. Note l'AFP, les dirigeants cherchent à calmer les esprits et éviter une dégradation de la situation.
Politique américaine, Donald Trump maintient une avance considérable face à ses adversaires républicains dans 3 États clés, l'Ohio, la Pennsylvanie et la Floride. Chez les démocrates, le sondage de l'université Quinnipiac place Hillary Clinton en tête dans les mêmes États, mais avec une marge plus réduite qu'avant. Depuis 1960, aucun candidat n'a été élu président sans remporter 2 de ces 3 grands États.
Sachez enfin que le prix Nobel de chimie a été décerné cette année à 3 chercheurs, le Suédois Thomas Lindahl, le Turc Aziz Sankar et l'Américain Paul Modrick. Le comité Nobel les a récompensés pour leurs travaux sur la répartition d'un ADN humain, sur la réparation d'un ADN humain, une méthode pouvant aider au traitement du cancer.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique.
L'actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est la Minute Éco avec Claire Morin-Gibourg.
Le Sénégal, pays vinicole, c'est le pari de 2 Français qui ont installé au sud-est de Dakar, près de la petite côte, le Clos des Baobabs, domaine vinicole, qui a donné leur nom aux bouteilles de vin rouge et rosé, 100% made in Sénégal. Cette année, la deuxième vendange a produit 500 bouteilles, qui seront vendues 11 euros chacune, soit 7 000 francs CFA. La transformation de la noix de cajou était le point faible de la Côte d'Ivoire, pourtant l'un des premiers producteurs mondiaux. Un problème en cours de résolution. Le Conseil des ministres du 18 septembre dernier a validé la construction d'une unité de transformation de noix de cajou dans la technopole de Yamoussoukro, usine dotée d'une capacité annuelle de 5 000 tonnes au départ. Le marché a été confié à la compagnie vietnamienne Viet Mold Machine. Le fonds d'investissement américain KKR confirme son grand intérêt pour l'Afrique. L'année dernière, le groupe investissait près de 200 millions de dollars dans une société néerlandaise productrice de fleurs installée en Éthiopie. Aujourd'hui, il annonce envisager un investissement de 100 millions de dollars en Afrique d'ici 1 an dans l'agriculture, l'industrie alimentaire, l'énergie ou les infrastructures. Le Nigeria servirait de pays base à la société qui projette de rayonner dans toute l'Afrique de l'Ouest. 1 mois après le lancement d'AfroStream, plateforme payante de vidéos à la demande spécialisée dans le cinéma afro, Orange annonce sa participation au financement de la société pour un montant qui n'a pas été communiqué. Les services d'AfroStream sont disponibles au Sénégal, en Côte d'Ivoire, mais également en France, Belgique, Suisse et Luxembourg.
C'était La Minute Éco avec Anastasie Tudjesh.
Les sports ce soir, c'est avec Eric Manirakiza en studio. Salut Eric.
Bonsoir.
Parlons tout d'abord des éliminatoires de la Coupe du Monde 2018 de football qui débute en Afrique ce 7 octobre avec le premier tour aller.
Oui, Gabi, 26 équipes nationales entrent en piste, dont celle du Burundi qui a battu les Seychelles 1-0. De la Centrafrique, des Comores, de Djibouti, de Madagascar, de Maurice, de la Mauritanie, du Niger et du Tchad. Les 26 sélections les moins bien placées au classement des nations établi par la Fédération internationale, le classement FIFA, prennent part à ce premier tour. Et les autres pays africains engagés en éliminatoire du Mondial 2018 qui sont mieux lotis au classement FIFA disputeront eux directement un deuxième tour entre le 9 et le 17 novembre 2015.
Le milieu offensif Samir Nasri, aujourd'hui à Manchester City, fait toujours parler de lui en France.
Oui, l'ancienne perle de l'Olympique de Marseille, qui est en première ligue à Manchester City, affirmait que même si le PSG mettait 15 millions d'euros annuellement pour ses émoluments salariaux pour l'avoir, eh bien, il ne signerait pas à Paris car il gagne bien sa vie à City.
Karim Benzema ne comprend pas pourquoi il est souvent remplacé dans son équipe du Real Madrid malgré ses bonnes performances.
Ah oui, ce n'est pas l'avis de l'entraîneur Rafael Benitez. Ce dernier confie dans un entretien accordé à la radio Cadena Copé qu'il devrait rééquilibrer l'équipe lors du derby entre l'Atlético et le Real Madrid.
Et Lassana Diarra, cet ancien joueur du Real qui est aujourd'hui à l'OM, il vient de démontrer sa légitimité sur le terrain.
C'est depuis le début du championnat de France de football en Ligue 1. Il est le seul à surnager dans un océan d'incertitudes, d'inquiétudes, malgré ses 15 mois d'inactivité, Gabi. Et la trentaine bien portée, l'as, comme on le surnomme, a mûri. Il a compris ce qu'il devait apporter à l'équipe de France de Didier Deschamps.
Merci Eric Manirakiza.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Morgane Guériec et Chérubin Gabi Dorcy dans votre compagnie. Place maintenant au dossier du jour. On commence, Morgane, par la crise migratoire en Europe.
Oui, et nous mettons le cap sur la Méditerranée. L'opération navale Sophia a commencé aujourd'hui. Cette initiative de l'Union européenne vise à intercepter les navires de passeurs et de trafiquants humains tentant de transporter les migrants et réfugiés vers les côtes de l'Europe. Sur place, notre envoyé spécial en Italie, Nicola Pino, est actuellement en Sicile où les migrants arrivent quotidiennement par centaines.
Tenez-vous bien, mardi matin, ce sont 239 migrants, en majorité des Érythréens, qui sont arrivés dans le port de Messine. Puis le soir, ce sont plus de 650 migrants qui sont arrivés dans le port de Catane, secourus par le bateau britannique Enterprise. La majorité d'entre eux étaient des Érythréens. Et ce matin, je me suis rendu dans le port de Pozzallo. Et cette fois-ci, ce sont plus de 500 migrants qui ont été secourus par un bateau espagnol. Cette fois-ci, il y avait au moins 90 Somaliens à bord, beaucoup de Nigérians et encore des gens du Soudan. Et c'est toujours la même procédure, Morgane. Ils débarquent, ils reçoivent un examen médical, puis s'enregistrent auprès des autorités italiennes. Le flot est continu. Il faut multiplier cela par 5, par 6, si vous comptez la Grèce, la Turquie ou encore d'autres ports de la Méditerranée.
Que sait-on du parcours de ces migrants? Comment sont-ils arrivés en Europe?
Alors, beaucoup fuient évidemment la misère ou alors des régimes autoritaires. C'est notamment le cas des Érythréens qui constituent la grande majorité des migrants africains qui tentent le voyage vers la Méditerranée. On trouve aussi des personnes issues de pays plutôt instables, notamment la Somalie en raison de la sécurité ou alors de l'autre côté, notamment le Mali. J'ai pu rencontrer des migrants maliens à Rome qui expliquaient qu'évidemment, en raison de la situation sécuritaire dans le pays, il était difficile de pouvoir rester y vivre. Alors, on compte évidemment ceux qui vont appliquer pour le statut de réfugié politique comme les Érythréens ou encore les Somaliens. Mais il y a également tout simplement tous ceux qui veulent une meilleure vie économique et ça constitue la grande majorité des migrants. Beaucoup viennent d'Afrique de l'Ouest, ils passent notamment par Bamako, puis la région de Gao, Agadez au Niger. Ils se retrouvent en Libye et à partir de Tripoli en Libye, ils essayent évidemment de gagner la Méditerranée sur les côtes italiennes. De l'autre côté, tous les migrants venant d'Éthiopie, d'Érythrée ou encore de Somalie se retrouvent à Khartoum, au Soudan, et de là, ils traversent par le Sahara pour gagner eux aussi Tripoli et essayer de gagner la Méditerranée. Un chiffre, Morgane, 90% des migrants qui tentent la traversée de la Méditerranée et qui se retrouvent en Italie le font à partir de la Libye.
Et Nicolas, leur périple, malheureusement, ne s'arrête pas une fois qu'ils arrivent en Europe.
Oui, notamment les personnes qui sont victimes de trafic. On pense notamment aux jeunes Nigérians qui peuvent être les victimes de réseaux qui vont vouloir les exploiter au niveau de la prostitution en Europe. C'est pour ça que les autorités italiennes et toutes les organisations internationales qui interviennent ici sur place en Sicile essaient de les repérer dès l'arrivée au port pour justement pouvoir les prendre en charge et éviter qu'elles ne tombent dans ces réseaux de prostitution. Mais comme l'expliquait quelqu'un de l'Office des migrations internationales, il est très difficile parfois de les faire changer d'avis. Il y a une pression évidemment puisque leur famille est restée au pays et ces groupes organisés, ces groupes criminels savent jouer psychologiquement de cette pression pour les obliger à rester auprès d'eux. En tout cas, c'est vrai que pour certains et certaines, le périple en Europe va continuer de manière brutale.
Nicolas Pino, notre envoyé spécial en Italie.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. Notez notre nouvelle adresse voafrique.com. Tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages, photos et vidéos, et vos commentaires sur voafrique.com. À tout de suite.
À quelques jours du premier tour de la présidentielle en Guinée, les partis de l'opposition ont réitéré mardi leur critique au sujet du processus électoral, dénonçant d'importants dysfonctionnements qui pourraient, selon eux, affecter l'issue du scrutin. Toutefois, ils se sont engagés à ne pas boycotter le vote du 11 octobre. Timothée Donangmaï a recueilli la réaction de Béatrice Dobige, directrice de campagne du candidat Sidia Touré, Anne-Zéré Coré.
Nous sommes vraiment angoissés parce que non seulement certains n'ont pas eu encore les cartes d'électeurs et au niveau des cartes d'électeurs, vous avez une seule personne enrôlée plus de 20 à 30 fois, jusqu'à 60 fois s'il faut. Donc aujourd'hui, les accesseurs et les délégués des bureaux de vote, tout de suite, il y a M. Zoumanidi qui nous a appelé qu'il faut le nombre d'accesseurs doit être au nombre de délégués dans les bureaux de vote. Ce qui veut dire s'il y a 10 délégués des bureaux de vote, il faut 10 accesseurs. Il y a un mois, l'opposition, la mouvance ne voulait pas ça. Sur 30 bureaux de vote, ils se disaient, eux, ils prennent 15 et l'opposition prend 15. Mais ce soir-là, il y a M. Zoumanidi, qui est la deuxième personnalité de l'UFR, qui vient de nous appeler tout de suite. Nous sommes comme ça chez moi, avec certains délégués et le bureau de la jeunesse qui est là. Et nous sommes en train de corriger ces trucs.
Donc, est-ce qu'on peut dire qu'il y a un début de solution aux soucis exprimés par les groupes de l'opposition?
Ce que je voudrais dire, ça n'engage que ma propre personne parce que je crois que la décision finale doit venir du président de l'UFR. Mais moi, à ma connaissance, étant sur le terrain, je pense que nous partons aux élections les mains et les pieds liés. Parce que si nous acceptons de partir comme ça pour les élections, je crois que ce ne serait pas bien. Pour l'opposition, en tout cas. Toute cette mascarade électorale qui s'est mise en place, je pense que les ténors de l'opposition doivent se rencontrer et vraiment voir ce qu'il y a lieu de faire. Parce que ce ne serait pas sage d'aller aux élections vraiment les mains et les pieds liés et que s'il y a un résultat qu'on se dise « Ah, on n'est pas d'accord ».
On n'est plus qu'à quelques jours du scrutin. Est-ce qu'on a le temps de corriger les problèmes soulevés?
Je ne pense pas qu'on puisse corriger tout parce que jusqu'au moment où vous et moi nous parlons, les maires qu'on devait tracer jusqu'à présent, le décret n'est pas sorti. Lorsqu'on doit construire une nation, je pense que c'est pour le bien fondé de tous les citoyens de ce pays. Il faut corriger les choses définitivement, pas partiellement.
On écoutait Béatrice Dobige, directrice de campagne du candidat Sidia Touré, Anne-Zéré Coré en Guinée.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum ce jeudi. Gros plan sur l'élection présidentielle de dimanche en Guinée. L'ambiance est tendue dans le pays après des affrontements meurtriers le week-end dernier à Nzéré Coré entre partisans du président Alpha Condé et sympathisants de son rival Sélou Dalein Diallo. Que faire pour consolider la démocratie 5 ans après les premières élections libres en 2010? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique. Washington Forum, ce jeudi à 19h30.
Retour sur l'attaque de Kunduz qui a fait 23 morts et de nombreux blessés samedi en Afghanistan. MSF a exigé aujourd'hui à Genève une enquête de la Commission internationale humanitaire d'établissement des faits. Cette commission est le seul organe permanent mis en place spécifiquement pour enquêter sur les violations du droit humanitaire. Mais il n'a jamais été utilisé depuis sa création en 1991. Nathalie Barge a joint à Paris Stéphane Roch, directeur de MSF France.
De manière étonnante, jamais elle n'a été activée comme vous le dites. C'est pas par manque de sujets, hein. Il y a eu quand même dans les 20-30 dernières années bien sûr un certain nombre de cas de figure où des attaques ont eu lieu par des belligérants sur des hôpitaux notamment et des structures de soins. Aujourd'hui, nous considérons que c'est trop grave ce qui s'est passé. Il y a eu trop de versions différentes de l'administration américaine, de l'OTAN, des gouvernements afghans. Et vraiment, les choses n'apparaissent pas claires du tout. Le tribut payé par les équipes et les patients est vraiment important et parfois on peut imaginer une trajectoire malheureuse d'un missile et qu'il y ait un certain nombre de pertes civiles et évidemment c'est toujours dramatique. Et là on passe un cran au-dessus, c'est-à-dire que tout le monde savait ce qui se passait dans cet hôpital qui traitait des patients. Nous avions informé toutes les parties de manière très très transparente et néanmoins il y a eu ces incidents avec de multiples attaques ciblé sur cet hôpital. Donc c'est pour ça qu'on veut vraiment que la lumière soit faite. et que ça puisse servir d'exemple pour renforcer, si on était besoin, la nécessité de protéger l'action humanitaire et de protéger l'accès aux patients à des structures de soins dans les zones de conflit.
Qu'est-ce qu'il faut faire exactement pour que ce mécanisme d'enquête soit activé ?
Un seul pays signataire peut demander une telle enquête, mais en l'occurrence, il faut que les parties au conflit, et là en l'occurrence les États-Unis d'Amérique et le gouvernement afghan, acceptent le principe d'une telle enquête.
Et ne craignez-vous pas que les États-Unis ou l'Afghanistan refusent finalement hein ?
Bien sûr, c'est une hypothèse tout à fait possible. Mais c'est pas parce que c'est possible qu'il ne faut pas se donner toutes les chances d'y arriver quand même. On ne va pas relâcher la pression. Il est hors de question d'oublier cette tragédie et de la considérer comme une des nombreuses erreurs assimilées à des dommages collatéraux. Voilà, on n'est pas prêt du tout à arrêter le combat pour faire reconnaître que c'était un crime de guerre d'après les informations que nous avons et pour qu'on puisse utiliser cette erreur pour les futurs conflits.
Est-ce que jusqu'ici, ce sont seulement des enquêtes internes militaires qui ont été proposées?
Oui, aujourd'hui, c'est ce qu'on a entendu par le gouvernement afghan, le gouvernement américain et par l'OTAN. Mais ce sont des enquêtes internes diligentées par des parties prenantes au conflit et des parties prenantes à cette erreur tragique. Qu'il y ait des enquêtes internes, très bien. Je veux dire, chaque organisation doit s'améliorer et doit regarder ce qui n'a pas fonctionné. Mais ça ne peut pas suffire pour faire état de la vérité.
Stéphane Rock, directeur général de MSF France.
Les réunions annuelles du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale se sont ouvertes à Lima, au Pérou. 188 pays sont présents pour ébaucher des réponses aux défis climatiques et une économie mondiale en berne. Le FMI reste inquiet pour la croissance mondiale et il a abaissé hier mardi ses prévisions de croissance économique pour l'Afrique subsaharienne. Pour une analyse, Claire Morin-Gibourg a joint le directeur de l'équipe responsable de la lutte contre la pauvreté en Afrique subsaharienne pour la Banque mondiale, Pablo Finzelberg.
La croissance en Afrique subsaharienne a été plus rapide dans les dernières 15 années que dans le passé. Depuis la fin des années 90, on a observé une croissance plus rapide, mais quand même, il y a des raisons pour s'inquiéter. Il y a un ralentissement de la croissance mondiale après la crise financière de 2008 qui a aussi affecté l'Afrique. Les prix des matières premières, comme tout le monde le sait, ont plongé récemment et ça affecte négativement beaucoup de pays africains qui sont des exportateurs de matières premières. On peut aussi rappeler que la volatilité des marchés financiers affecte aussi beaucoup de pays africains qui ont besoin d'utiliser des financements internationaux qui devient plus difficile récemment.
Il y a quelques jours, la Banque mondiale a publié un rapport sur la baisse de l'extrême pauvreté dans le monde. Donc, elle passe en dessous de la barre des 10%. Mais là encore, l'Afrique subsaharienne est à la traîne. Pourquoi, selon vous ?
Premièrement, laissez-moi vous dire que même si l'Afrique subsaharienne est quand même à la traîne, il y a eu une diminution de la pauvreté en Afrique. La population africaine, plus de la moitié, était dans une situation de pauvreté extrême. Il y a 25 ans, c'était 56%. Aujourd'hui, on estime que c'est à peu près 35% de la population subsaharienne qui est dans l'extrême pauvreté. C'est quand même un chiffre très haut. Ça veut dire 350 millions de personnes qui sont incapables de satisfaire leurs besoins essentiels en termes de denrées, de logements et d'autres besoins essentiels. Alors la question, pourquoi est-ce que l'Afrique n'a pas montré le même succès d'autres pays en développement ? Premièrement, l'Afrique subsaharienne a encore la plus grande partie de la population de l'emploi dans le secteur agricole. C'est 60% de l'emploi est dans le secteur agricole. 80% de l'emploi parmi les populations les plus pauvres sont dans le secteur agricole. Et le secteur agricole a eu une croissance qui a été inférieure à celle d'autres secteurs de l'économie. Alors je pense que ça, c'est un défi très important pour l'Afrique.
Pablo Finzelberg, directeur de l'équipe responsable de la pauvreté en Afrique subsaharienne pour la Banque mondiale.
Salut les amis, ici Roger Montoux sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au menu, international music, comédie, country music. Vos commentaires sur notre page Facebook, Roger Montoux, la voix de l'Amérique. Et vos SMS au 225 58 92. 4-0. Je répète, 225-58-9240. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Et c'est la fin de cette édition à la mise en onde ce soir. Issia Kaba, présentation Morgane Guirec et chérubin Gabi Dorsil.
On remercie Nachwan Kale et Micha Dubinski à la console. Ainsi va le monde aujourd'hui. Restez en contact avec VOA Afrique sur Facebook et sur voafrique.com.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako, sur 102 FM. Raga FM, Kinshasa. Soleil FM, Conakry. 92.3 FM, Radio Wentanga. Wayegouya, Burkina Faso. Et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui, sur VOA Afrique.